cours de philosophie première par le père Marie-Dominique Philippe, le 25 janvier 2001 à Saint-Jodeur.
J'ai une objection. Vous nous disiez au dernier cours, celui que j'aime ne m'attire que quand il m'aime. Mais ne m'attire pleinement, hein, pleinement, parce qu'il m'attire avant. Il y a un premier amour, n'est-ce pas ? Vous dites au-delà de celui-là. Mais c'est pour que l'amour se développe. Je ne sais pas si j'ai cité, je dis ça exactement, mais il faudrait, si je l'ai dit, c'est possible, m'attire pleinement que quand il m'aime. Cela, je ne le comprends pas très bien, parce que je me disais que l'attraction précède la réponse de l'autre. Il y a deux attractions, hein. Il y a une première attraction qui simplement... L'attraction du bien. L'attraction précède la réponse de l'autre. Et que la réciprocité est pour l'épanouissement. Vous voyez, pour l'épanouissement, la plénitude. Mais l'épanouissement essentiel, ce n'est pas une manifestation. C'est pour que l'amour, comme amour, aille jusqu'au bout. Et c'est l'amour lui-même. Vous voyez ? Est-ce qu'on peut dire que c'est simplement une surabondance, une manifestation ? Non, c'est plus que ça. Et que la réciprocité est pour l'épanouissement, la plénitude de cet amour premier. Quelqu'un qui ne nous aime pas peut nous attirer. Qui ne nous aime pas, on ne sait pas qu'il ne nous aime pas, peut nous attirer. Pouvez-vous revenir sur là ? Alors, c'est la question, qui est la grosse question, et très importante, des liens entre la recherche de la vérité et la découverte du bien. On distingue vérité et bien. On les distingue et il faut les distinguer. Ce qui est terrible aujourd'hui, dans la plupart du temps, dans la féminologie, on n'y distingue pas. Mais, ou on distingue très mal. Parce que cette distinction du vrai et du bien, en dernier lieu, elle est métaphysique. Elle est par l'être. C'est dans l'être que je distingue le vrai et le bien. L'être est vrai, l'être est bon. Vous voyez, c'est le lien qui existe entre le vrai et le bien. C'est parce que c'est l'être. Si je ne saisis pas l'être, j'aurai la tentation de regarder le vrai et le bien comme étant l'un et l'autre dialectiquement opposés et s'opposant constamment. Alors que si je saisis l'être, il y a un fondement actuel, pas un fondement lointain, mais il y a un fondement actuel, c'est plus qu'un fondement actuel. Il y a la présence de l'être dans le vrai et dans le bien. Et cette présence de l'être dans le vrai et le bien me permet de comprendre que ma connaissance du vrai s'achève dans l'amour. Et l'amour réclame une vérité toujours plus grande. de sorte qu'à la place d'être dialectiquement opposé, ce qui se fait fatalement si on oublie l'être. Donc s'il n'y a pas la métaphysique et qu'on reste uniquement du jeu psychologique, uniquement au point de vue de la description, on opposera les deux. Et dialectiquement, on opposera les deux. Si, au contraire, je pousse mon analyse, je vois qu'il y a, entre le vrai et le bien, une unité radicale, actuelle. Elle n'est pas seulement fondamentale. Le vrai, c'est l'être qui est vrai. C'est que l'être possède une intelligibilité. L'être est capable d'attirer. Vous voyez, ce n'est pas la distinction genre et différence spécifique. Fatalement, nous prenons cette distinction-là parce qu'elle est humaine. La logique est très humaine. Et en logique, on fait la distinction entre le genre et la différence spécifique. Le genre est fondement. La différence spécifique s'ajoute de l'extérieur. C'est la distinction entre ma raison et son mode, qui est une distinction bien plus subtile, puisque la raison est pleinement en acte dans le mode. Donc ce n'est pas fondement. Et quand je dis que l'être est fondement, ce n'est pas juste. L'être est présent dans le vrai. L'être est présent en acte dans le bien et dans le vrai. Il est présent en acte. C'est une modalité de l'acte. Ce n'est pas une différence spécifique qui vient s'ajouter à un fondement. C'est vraiment une modalité qui explicite ce que l'être possède en lui-même. L'être est vrai, l'être est bien. Et ceci, c'est capital à comprendre ça. Autrement, il y aura toujours un nuage qui vous empêchera de comprendre comment le vrai doit être ordonné au bien par l'être. Et le bien est là pour augmenter, intensifier ma recherche du vrai. Et l'union entre le vrai et le bien me permettra en définitive de découvrir l'être premier, créateur, Dieu. La sagesse, la connaissance de sagesse, la connaissance sapientiale, implique en acte la recherche du vrai et l'attraction du bien. C'est le preuve de la connaissance sapientiale. C'est en ce sens que la raison raisonnante, c'est-à-dire ma manière particulière d'être intelligent. Je suis un être raisonnable. Je suis un être qui raisonne instinctivement. Tous, vous raisonnez. Quand on vous demande de faire quelque chose, vous dites, est-ce que c'est bien? Est-ce que je veux comprendre un peu? Oui, vous raisonnez. Vous vous repliez sur ce que vous comprenez. Et vous raisonnez, et vous cherchez les liens. C'est normal. L'être humain est un être qui raisonne. Celui qui raisonne n'est pas nécessairement intelligent. très curieux. Et quand la raison est très développée, elle étouffe l'intelligence. C'est ce qu'on voit dans une pensée mathématique très poussée qui empêche l'intelligence d'atteindre l'être et qui reste fixée à la relation. Regardez Hegel, regardez Hamelin. C'est plus facile à comprendre. C'est une philosophie de la relation. Le privat de la relation. Pour Aristote, la relation, c'est l'être le plus débile, parce qu'il n'existe qu'en s'appuyant sur un autre. Il a besoin d'une béquille. Il a besoin d'un autre. C'est la relation, ça. Dans la relation, on est toujours deux. C'est toujours relatif à l'autre. Et c'est pour ça que c'est l'être le plus débile. Et la substance, elle est par elle-même. Tandis que la relation, il est par l'autre. Et la relation devient l'être premier. Et par le fait même, je ne peux absolument pas découvrir l'existence de Dieu. Je ne découvre même plus ce que c'est qu'un principe. Je ne peux plus. Tout est relatif. Mais une philosophie qui met la critique en premier lieu sera nécessairement une philosophie qui mettra la relation en premier. Et à ce moment-là, je développe la raison. Et mon intelligence est comme enfouie. C'est le phénomène d'aujourd'hui. Il faut bien comprendre cela. C'est que la plupart des intelligences sont enfouies par cette espèce de développement extraordinaire de la relation. La relation s'est tellement développée qu'on ne pense plus que relativement. C'est extrêmement curieux et c'est le phénomène actuel. C'est qu'on ne pense plus que de cette manière-là. On regarde toujours le comportement de l'autre. On ne sait plus connaître la réalité pour elle-même et en elle-même connaître l'être qui n'est pas relatif. Quand je saisis un principe, je saisis un premier qui se dévoile lui-même comme premier et qui n'est plus relatif. Et on a une peine énorme si on réfléchit un peu, si on fait un examen sa propre connaissance. On a une peine énorme à comprendre ce qui est premier. On comprend toujours en fonction de la relation. C'est très curieux, là. Et c'est le phénomène du développement très intense de la relation, de la raison. Il raisonne toujours relativement à l'autre. Il n'y a plus la connaissance de l'autre en lui-même, mais de l'autre par rapport à moi. Je ne connais l'autre qu'en fonction de moi. Et je ne me connais qu'en fonction de l'autre. Et je reste toujours relatif. Je compare tout le temps. Suis-je plus aimé qu'un autre? Suis-je moins aimé qu'un autre? Mais on s'en fiche, ça. On regarde l'amour. L'amour n'est pas relatif. On aime. On aime une personne en elle-même et pour elle. Vous ne pouvez plus aimer pour l'ami. Vous aimez quelqu'un relativement à l'autre. Je l'aime plus que l'autre. Est-ce que tu l'aimes plus que l'autre? Oui, tout le temps comparé. Avoir le point de vue de comparaison, on est enfermé dans la relation. On n'arrive plus à saisir. Alors, ce que nous voyons maintenant, vous voyez, l'être en acte, c'est la possibilité de saisir l'acte par lui-même et pour lui-même. Et ne pas saisir l'acte relatif à un autre. La puissance se saisit toujours par l'acte. La puissance est inintelligible en elle-même. Inintelligible. Elle est toute relative à l'acte. Le parfait fait comprendre l'imparfait. L'imparfait en lui-même n'est pas intelligible. Il se comprend toujours en raison du parfait. Notre connaissance est tellement collée à la puissance, à ce qui peut être, pas à ce qui est, mais à ce qui peut être. On est tellement collé à cela que c'est toujours relatif à l'autre. Et ça, c'est très important de comprendre l'être en acte se comprend par lui-même. L'acte n'est pas relatif à la puissance. C'est la puissance qui est relative à l'acte. Bon, ça, tout le monde peut comprendre ça, je crois. Tout le monde peut comprendre ça. Que l'imparfait ne se comprend que par le parfait. Donc, l'imparfait ne peut se comprendre que dans la relation au parfait. On est aujourd'hui tellement collé au conditionnement, à notre conditionnement, et notre conditionnement nous montre notre état d'imperfection, notre état, celui qui peut être actué, mais qui n'est pas actué. Le conditionnement n'est jamais l'acte parfait, le conditionnement dans lequel nous sommes. Le conditionnement, c'est le milieu, vous voyez. Et ce qu'on voyait hier, si vous voulez, au point de vue dans l'écriture, le conditionnement, c'est l'homme qui dit « c'est à cause de la femme ». Et la femme dit « c'est à cause du serpent ». Hein ? Toujours l'autre. Le péché d'Ève se comprend par le serpent. Le péché d'Adam se comprend par la présence d'Ève. Non. En définitive, c'est Adam qui a été faible et qui a accepté le jugement d'Ève. Il a accepté le jugement d'Ève et il a épousé le jugement d'Ève. Et Ève a épousé le jugement de Satan. Et elle s'excuse en raison de son imperfection. Et elle ne considère que son imperfection, elle est relative à... Oui, ça fait très bien comprendre cela. Et on est tous comme ça. Le monde d'aujourd'hui est comme ça. Il est tout le temps relatif. Il n'y a plus personne de responsable. Ah, c'est à cause de l'autre. Mais à cause de l'autre, quoi. Qu'est-ce que vous êtes ? Est-ce que vous êtes une personne ou non ? Ah non, je ne suis pas une personne, je suis un numéro dans un tout. Ah oui, donc vous êtes relatif au tout. On est constamment pincé par ce point de vue-là. Dans le monde d'aujourd'hui, la raison domine et l'intelligence se tait. Et on ne voit plus ce primat de l'acte qui doit se comprendre par lui-même. Or, l'acte se manifeste à nous comme vrai, comme bien. Et l'acte se manifeste en nous d'abord dans l'être. L'être en acte, puis comme vrai et comme bien. Je garde à ce moment-là la distinction de l'être en acte, non plus en lui-même, mais dans l'esprit. Dans l'esprit, l'acte est vrai. L'acte est bien dans la volonté. Oui, il faut bien saisir la distinction entre le point de vue de la connaissance de l'être, c'est premier. Si je n'ai pas cette connaissance de l'être première, j'opposerai dialectiquement le bien et le vrai. Si je saisis l'être en acte, je vois que l'être en acte se donne à moi du côté de l'intelligence, de l'esprit intelligence comme vrai, et du côté de la volonté comme bien. Le bien, c'est l'être en acte. Le vrai, c'est l'être en acte. Mais l'être en acte pour mon intelligence et l'être en acte pour ma volonté. Oui, c'est très subtil, je comprends bien, comme distinction, mais c'est capital. Parce que si vous ne voyez pas cela, vous n'entrerez jamais dans la connaissance sapientiale, dans la sagesse. Vous resterez horizontalement. Vous n'arriverez jamais à dépasser ce que nous possédons, ce que nous avons en nous-mêmes, et vous resterez toujours en vous-même, sans pouvoir dépasser et atteindre le premier, qui est au-delà de moi, qui transcende. Je resterai dans l'immanence. Et c'est ça qui est si important dans l'étude que nous faisons. Et c'est capital, ça, de bien distinguer l'étude du vrai et l'étude du bien. Bien les distinguer, mais ne pas les opposer. Bien distinguer, ne pas les séparer. Je les distingue. Autre chose est le vrai, autre chose est le bien. Je les atteins l'un et l'autre différemment. Cette recherche de la vérité, cette recherche du bien. Les deux se distinguent, sont unis dans l'être en acte. Dès que vous voyez une distinction, vous voyez toujours ce qui unit. Qu'est-ce qui unit le vrai et le bien ? C'est qu'ils sont être en acte. Tant que vous n'avez pas saisi que le vrai, c'est l'être en acte, vous opposerez le vrai au bien. Dès que vous comprendrez que le vrai, c'est l'être en acte, et que le bien est l'être en acte, ah, tous les deux sont l'être en acte. Si tous les deux sont l'être en acte, ils doivent se donner la main, ils doivent se rejoindre. Et pour ça, il faut avoir saisi l'être en acte. Celui qui n'a pas saisi l'être en acte, il voit le vrai, il voit le bien, il reste dans l'esprit et ne saisit plus l'être. Pour mon esprit, l'être, c'est le vrai, l'être, c'est le bien. Mais je sais que l'être, c'est le vrai. C'est le bien, tous les deux sont être en acte. C'est mon intelligence qui est faite pour l'être. Mon intelligence escalade le plus parfait. Elle s'éveille en face de ce qui est jugement d'existence. Ceci est. Vous voyez, C'est pour ça que cet éveil de l'intelligence par rapport à l'être est quelque chose de si important. Si mon intelligence par rapport à l'être ne s'éveille pas, je resterai dans la dualité et dans l'opposition permanente. Et je dirais, il y a du côté les affectifs et de l'autre côté les intellectuels. Et les affectifs, les intellectuels se regardent en disant, moi, je suis du côté affectif, je touche le concret de la personne. Et l'intellectuel dit, moi, je suis du côté de l'intelligence, je saisis la vérité. Et il y aura l'opposition entre les deux. Non, il y a un dépassement. L'être en acte. Oui, psychologiquement, vous ne saisissez jamais l'être. Vous saisissez tout le conditionnement. La psychologie demeure dans le conditionnement. C'est la limite de la psychologie, ça. La féminologie demeure dans le conditionnement. C'est la limite de la féminologie. Le vécu comme conditionnement. Le vécu intellectuel, le vécu affectif. C'est le conditionnement, le vécu. Votre vécu n'est pas mon vécu. C'est sûr. Et comment se fait-il qu'on puisse se parler ? Puisque votre vécu n'est pas mon vécu. Et si vous êtes enfermé dans votre vécu, et que l'autre est enfermé dans son vécu, ils se regarderont comme chien et chat. Votre père maître, s'il restait dans le vécu, ce serait le vécu du père maître. Et vous, le vécu du novice, vous ne rencontrez jamais. Deux vécus totalement différents. L'opposition entre le maître et l'esclave. Hein ? Ça existe, ça. Il y a une philosophie, l'opposition entre le maître et l'esclave. Le marxisme. Et donc, au fond, vous verrez là l'influence du marxiste. Vous êtes marxisé sans le savoir. Et si on vous dit que vous êtes marxisé, vous dites, mais non, pas du tout, pas du tout. Mais oui, vous restez dans votre vécu. Et vous êtes enfoncé dans votre vécu. Alors, il y a un vécu de la vérité, il y a un vécu de l'amour. C'est très vrai, ça. Le vécu de la vérité n'est pas le vécu de l'amour. Il s'oppose. Et vous avez de temps en temps des personnes qui s'enfoncent dans le vécu de la vérité. Ah, oh, les intellectuels. Et vous avez des personnes qui s'enfoncent dans le vécu affectif. Ah, oh, l'affectivité qui prend tout. Et dans les communautés, quand vous réunissez l'ensemble, vous avez deux camps, les intellectuels et les affectifs. Et l'affectivité, quand elle est seule, c'est la passion. Alors vous avez la passion, qui se cache évidemment. Vous voyez, on ne dira pas que c'est... Je veux rester dans la vérité, oui. Mais en réalité, c'est la passion. Et vous l'attirez tout à vous. Et vous donnez un clan, une idéologie, de droite ou de gauche, peu importe. L'idéologie de droite et les yeux sont toutes les deux des idéologies. Vous voyez comment s'engendrent les idéologies ? C'est que le vécu devient absolu, alors que le vécu est relatif à l'être en acte, à l'être. Et on ne peut pas arriver à faire que la vérité et l'amour s'embrassent sans voir l'être. Alors, d'une façon pratique, là, je quitte la philosophie. Pas parce que c'est une façon pratique, mais je quitte la philosophie en disant la vérité et l'amour s'embrassent à la croix. La justice et la miséricorde s'embrassent à la croix. Le vécu de la miséricorde et le vécu de la justice s'embrassent à la croix. Dans le Christ. C'est le Christ crucifié
qui fait cette unité. La sagesse, la croix. Là, vous voyez comment le point de vue de la connaissance de l'acte, l'être en acte, et la connaissance par l'être en acte de l'être en puissance, m'aide à avoir une intelligence beaucoup plus profonde, sapientia, de la croix. Et le chrétien, c'est celui qui vit de cette sagesse de la croix, qui vit de cette unité dans le cœur de Jésus. Ce n'est plus dans l'être, c'est dans le cœur de Jésus, parce qu'il est Dieu. Il unit le vécu de la miséricorde et le vécu de la justice. Alors que, dans l'Ancien Testament, quand vous regardez l'Évangile, constamment vous voyez l'opposition entre les deux. A-t-on le droit de guérir un infirme le jour du sabbat ? La lutte entre la miséricorde et la justice. La justice, non. Le sabbat absolu. On laisse l'autre crever pour observer le sabbat. Mais c'était comme cet ermite qui récitait son bréviaire et qui, l'autre ermite à côté, sa chambre brûlait. Ah, je récite mon office. Ce serait une distraction d'aller aider l'autre. Donc, une distraction. Donc, je vais dialectiquement l'opposition entre la miséricorde et la justice. Le dépassement, le Christ crucifié. Analogiquement, pour nous, le dépassement, l'être en acte. Je fais ça exprès pour que vous compreniez. C'est constamment ça. Et c'est capital pour nous de comprendre qu'on ne peut pas rester dans cette dialectique du vécu. Dans cette dialectique psychologique du vécu. Dans cette dialectique de la phénoménologie du vécu. Parce que le vécu, c'est encore une manière d'être. Ce n'est pas l'être. Votre vécu intellectuel, il est très intéressant, mais il faut le dépasser. Parce que c'est trop court, votre vécu intellectuel. Il y a quelque chose de plus grand que votre vécu intellectuel. Si grand que vous soyez, c'est ça la merveille dans saint Thomas, c'est que son vécu intellectuel, il disparaît complètement. C'est rare que saint Thomas dit « je dis cela, j'affirme cela ». Il le dit de temps en temps dans les questions disputées. Ego, digo, moi je dis ça. Mais le vécu intellectuel de saint Thomas disparaît complètement. Il montre ce qu'est la réalité, l'être. La réalité, l'être. Et elle dépasse ces deux modalités particulières du vécu de l'intelligence. Le vécu de l'intelligence est toujours rationnel chez nous. Mon vécu intellectuel est toujours rationnel. Je ne peux pas dépasser la raison dans mon vécu. C'est très curieux. Faites-en l'expérience dans un examen intellectuel. Réfléchissez sur vous. Votre vécu intellectuel est toujours rationnel. Alors que mon intelligence a besoin de dépasser ce vécu. L'être n'est pas vécu. Ah, oh, tiens. L'être n'est pas vécu. Il est. Dans le jugement d'existence, vous touchez l'être. Il est. Il n'est pas le vécu. Et votre vécu ne touchera jamais l'être. il touchera votre vécu. Et votre vécu sera rationnel. Et c'est pour ça que la fumologie qui paraît être très affective est au fond très rationnelle. Parce que le vécu intellectuel qui au point de départ paraît très affectif, c'est merveilleux, c'est du vécu. Ah ça, moi c'est du concret. Oui, c'est du concret. Quand on le pousse jusqu'au bout, ça devient du rationnel. Il n'y a rien de plus rationnel que Hegel. Et il n'y a rien de plus affectif que Hegel. C'est curieux. Le rationnel mange l'affectif. Et au bout, il n'y a plus que le rationnel. Ça, c'est très intéressant à comprendre. Et c'est tout simplement que votre vécu intellectuel, il est rationnel. Parce qu'il est humain. Votre vécu intellectuel est humain. Et au bout d'être intelligent, c'est d'être rationnel. Mais il y a une autre manière d'être intelligent, c'est de dépasser le rationnel et d'atteindre l'être. Qui n'est plus rationnel. Qui est analogique. L'être se dit de multiples façons. Vous voyez comment l'analogie me permet de dépasser le rationnel. Le rationnel sera toujours par genre et différence spécifique, la logique. Vous dépasserez cela par le point de vue de l'intelligence. Alors ça c'est très très important de pouvoir comprendre que mon intelligence il cherche à connaître le vrai. Et qui veut aller jusqu'au bout de la connaissance du vrai, doit comprendre que ma connaissance du vrai, pour aller jusqu'au bout, doit nécessairement regarder ce que c'est que l'être bon, ce que c'est que l'amour. Je ne peux pas connaître parfaitement l'être vrai sans connaître l'être bon. Alors, vous voyez, ça se complète. Si je prétends connaître parfaitement l'être vrai sans regarder l'être bon, je m'enferme dans ma raison. Si, en poussant jusqu'au bout, l'être vrai, je reverrai que l'être vrai, c'est l'être en acte. Et que l'être en acte est aussi l'être bon, je verrai que pour connaître parfaitement l'être vrai, il faut revenir à l'être en acte et par là regarder l'être bon. Voyez le lien, et ça j'insiste beaucoup là-dessus, parce que ça c'est capital, autrement on confond tout. Je ne dis pas que l'être vrai au terme devient l'être bon, non. L'être vrai peut être la bonté de mon intelligence, oui. Être vrai qualifie mon intelligence et rend mon intelligence bonne. C'est curieux, hein ? Oui. Pourquoi ? Parce que l'être vrai, en définitive, c'est l'être en acte. Qui n'exclut pas le point de vue de la bonté. Mais il faut passer par l'être pour comprendre que l'être vrai peut et réclame la bonté de l'être. Pour passer de l'être vrai à l'être bon, il faut nécessairement faire appel à l'être en acte. Vous ne découvrirez pas la bonté dans l'être vrai. C'est curieux ça. Mais vous découvrirez la bonté de l'être en comprenant que l'être vrai, c'est l'être en acte, pour mon esprit, et que l'être en acte est l'être bon, pour ma volonté. Je respecte la distinction de ces deux voies, mais je ne les sépare pas, et je les unis dans l'être en acte. Je crois que j'ai suffisamment insisté là-dessus. Mais ça, c'est très, très important. Parce que si on ne saisit pas cela, on ne saisira jamais une connaissance sapientiale. On ne comprendra pas comment mon intelligence, si elle reste intelligence et non pas raison, comment mon intelligence fera appel à la bonté pour pouvoir aller plus loin dans la vérité. C'est très simple. Dans l'amitié, la véritable amitié, vous connaissez l'homme, l'autre, la personne de l'autre, dans ce qu'elle a de plus profond. Tant que vous n'aimez pas la personne de l'autre, vous ne connaissez pas parfaitement ce que c'est que l'homme. Et alors on dira bêtement, c'est plus objectif. Vous voyez, on oppose dialectiquement subjectif et objectif. On ne comprend pas que l'objectivité et la subjectivité sont toujours présents. Vous ne pouvez jamais connaître sans votre subjectivité. C'est évident. Mais vous ne devez pas les opposer. Vous devez au contraire comprendre la coopération de l'objectif et du subjectif. Grâce à l'amour, vous vous approchez. Votre intelligence est myope par rapport à la personne, par rapport à l'invisible. Votre intelligence est myope. Grâce à l'amour, vous approchez pour connaître du dedans. L'ami, je le connais au plus profond de lui-même. Je ne connais pas seulement de l'extérieur, selon ses manifestations, je le connais intérieurement. Avec l'ami, on a des conversations amicales. Et des conversations amicales, c'est justement de livrer ses secrets. Et je connais alors de l'intérieur. Si je connais de l'intérieur, je vais plus loin dans la connaissance objective. Parce que tout homme est parfaitement vrai que quand j'atteins ce qu'il y a de plus intérieur en lui, tant que je connais quelqu'un uniquement selon ses manifestations extérieures, je ne le connais pas vraiment. Je peux le décrire, mais je ne connais pas intérieurement cette personne. Dès que je l'aime, j'ai une connaissance intérieure, affective. Et donc, je peux le connaître dans ce qu'il a de plus profond. Vous voyez ? C'est la différence de connaissance d'un savant médecin, par exemple, et d'une infirmière dévouée. L'infirmière dévouée connaît son malade affectivement. Elle a enveloppé ce malade affectivement. Elle connaît ses réactions intimes. Le médecin, lui, regarde de l'extérieur. Même quand il veut connaître intérieurement, il connaît extérieurement. Parce qu'il connaît intérieurement par un procédé extérieur. Il mesure. Mesurer, c'est toujours une connaissance extérieure. Ce n'est pas une connaissance intime. Oh, c'est très curieux de voir ça. Et c'est très intéressant de faire cette comparaison. On demande au médecin comment ça va. Ils vous diront, ils vous demandez l'infirmière. Une véritable infirmière. Une infirmière qui est infirmière, pas qui est une doublure du médecin. C'est-à-dire uniquement d'appliquer ce que le médecin dit, c'est tout. Hein. J'applique. On fait exactement ce qu'il donne, pilule à tel endroit, à telle heure, pilule à tel endroit, puis tout. Malade reste en dehors. Mais l'infirmier qui est maternelle, et qui dans ses soins est maternelle, a une connaissance enveloppante. La mère a toujours une connaissance enveloppante. Alors elle a une connaissance intime de l'intérieur. Alors vous me direz, ah, cette connaissance, elle est purement subjective. Tandis que la connaissance du médecin, ah, c'est objectif, c'est scientifique. Constamment on fait ça. Dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est objectif. Mais non. L'autre connaissance, tout simplement, c'est une autre connaissance. On pourra se demander laquelle connaît le mieux. Mais c'est une autre connaissance. Il y a deux types de connaissances. Et vous remarquez ça constamment. Donc faites-en la philosophie. Vous verrez comment la recherche du vrai peut se compléter par la bonté de l'être.